bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Il va falloir que je parle plus fort. Peut-être monter un tout petit peu le micro. Est-ce que là, c'est mieux? Bon, ça n'a pas l'air. Bon, je vais essayer de parler fort. Ah. Je vous propose qu'on prie le Seigneur de conduire ces moments. Merci Père parce que l'on peut venir à toi et je viens demander ton secours pour que tu m'aides à parler comme il faut et que tu parles à nos cœurs ce matin, que ta parole soit entendue et crue et que par elle tu changes nos vies. Je prie cela pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux que Clément ait choisi ce thème ce matin parce que vous allez voir que ça va pas mal recoupé avec ce que l'on va voir ensemble. Parce que je voudrais parler ce matin d'un sujet qui concerne tout le monde, les chrétiens comme les non-chrétiens, ceux qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps, comme les nouveaux convertis. Je voudrais vous parler ce matin des épreuves. Parce que s'il y a bien quelque chose devant laquelle nous sommes tous égaux, ce sont les épreuves. À première vue, on pourrait penser le contraire et se dire que non, nous ne sommes pas égaux dans les difficultés. La preuve, c'est que tel frère supporte bien sa maladie, même s'il souffre tous les jours, alors que tel autre reste dans l'angoisse à cause de ses ennuis financiers. Je connais deux personnes, un couple. Ils ont été malades en même temps. L'un souffrait du cancer et l'autre avait une maladie qui lui faisait perdre la vue. Celui qui souffrait du cancer restait serein, calme, même s'il souffrait beaucoup. Mais celle qui avait cette maladie qui lui faisait perdre la vue, tempêtait, était dans l'angoisse, dans la colère, déprimée, se plaignait beaucoup parce qu'elle trouvait cela injuste. Et elle allait même jusqu'à envier celui qui avait le cancer en pensant qu'elle supporterait mieux sa maladie à lui. C'est vrai qu'à première vue, on ne semble pas égaux devant les difficultés, devant la souffrance. Et en plus, on ne traverse pas tous la même chose. L'un peut être confronté à la tristesse, au décès d'un proche, et l'autre à la perte de son emploi. Et pourtant, l'épreuve, quelle qu'elle soit, elle va tous, sans distinction, nous plonger dans la souffrance, dans le questionnement, dans le doute, dans l'angoisse, dans la tristesse. Il n'y a personne qui peut échapper à ça. Il n'y a personne qui échappe un jour à cette question de se demander « Mais comment je vais faire pour m'en sortir ? Comment je vais faire maintenant pour vivre avec ça ?» Et c'est une bonne question. Comment faire quand on est dans l'épreuve? Comment est-ce que je vais faire pour remonter la pente quand plus rien ne va? Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, il est important de s'en poser d'autres et de se demander pourquoi les difficultés? D'où viennent-elles? Alors, je n'ai pas la prétention de répondre complètement à ces questions. C'est un sujet qui est très vaste. Mais on peut trouver des réponses dans la Bible. Parce qu'en Dieu, nous avons toutes les réponses à nos questions. Est-ce que vous n'avez jamais entendu cette expression, peut-être que vous l'avez prononcée vous-même, « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» C'est la question par excellence que se posent les gens qui sont dans l'épreuve. Et c'est normal, parce qu'on se demande si Dieu est responsable de ce qu'on traverse. On se demande si c'est lui qui est à l'origine de ces épreuves. Et souvent aussi, on estime qu'on n'est pas responsable de ce qu'on vit. On n'a rien fait qui justifie une telle souffrance. Et c'est parfois vrai. Mais il arrive aussi que les difficultés, elles soient liées, qu'elles aient une conséquence directe de notre attitude et de notre péché. Je voudrais en donner deux illustrations. Si vous voulez prendre avec moi dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6... 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 9, où il est dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Moi, je travaille dans une banque. Dans mon travail, je côtoie beaucoup de gens qui sont dévorés par l'amour de l'argent. Et on peut être dévoré par l'amour de l'argent avec seulement un billet de 5 euros en poche, comme avec des millions d'euros dans son portefeuille. Et quand on est dévoré par cet amour de l'argent, on a toujours le désir d'en avoir encore un peu, un petit peu plus, encore un petit peu plus. Et si m'enrichir devient la priorité de ma vie, alors je perds de vue l'objectif de Dieu. Et à ce moment-là, il est facile de tomber dans le compromis et dans le péché, de s'éloigner de la foi. Moi, j'ai trouvé très étrange dans ces versets que finalement, ce qui nous est dit, c'est que le désir de s'enrichir mène à la ruine. Vous ne trouvez pas ça étrange ? Ça devrait être le contraire, en fait. Et j'ai récemment eu l'occasion de voir une démonstration très concrète de ce que signifie ce verset. Dans mon travail, j'ai un client sans emploi qui a gagné à un jeu de grattage la somme de 25 000 euros. Ce qui est quand même une somme assez conséquente. 2 mois plus tard, il ne restait rien. Absolument rien de cette somme. Il ne restait même moins qu'avant qu'il gagne cet argent-là. Pourquoi ? Parce qu'il l'avait dépensé entièrement dans d'autres jeux de grattage pour essayer de gagner plus. Le verset dit qu'ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Eux-mêmes. Ça veut dire que nous sommes responsables de nos actes. Que nos actes ont des conséquences et que parfois le Seigneur nous laisse goûter aux conséquences de nos actes. On peut voir aussi dans 2 Samuel 11 et 12, on ne va pas le lire parce que c'est trop long, mais que David a été puni pour son péché lorsqu'il a couché avec Bathsheba, qu'il a tué son mari, Uri, et qu'il a trompé sa propre conscience en refusant d'avouer son péché. Dieu, à ce moment-là, a châtié David, et il l'a privé de l'enfant qui était issu de cet adultère. Alors c'est délicat, il arrive que Dieu nous châtie pour nous apprendre à bien nous comporter, comme un père le fait avec ses enfants. Il s'agit toujours de châtiments éducatif. C'est toujours une discipline bienveillante, c'est toujours avec amour que Dieu le fait. Mais il n'empêche que nous sommes parfois l'objet de la discipline de Dieu. Alors je disais au départ qu'il y a aussi des cas dans lesquels nous ne sommes pas responsables de ce que nous vivons. Je vais prendre là aussi 2 exemples et commencer par celui de Job. Si vous voulez prendre avec moi le livre de Job au premier chapitre, dès le premier verset du premier chapitre du livre de Job, on lit qu'il y avait dans le pays d'Outz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Je vais arrêter là la lecture. Job, c'est un homme intègre et droit. Et cet homme intègre et droit, il mène une vie de piété. Il s'attache à Dieu, à rester proche de lui. Il se détourne du mal. Il intercède même pour ses fils. Il prend soin de ses fils. La suite du livre nous apprend que Job n'est pas sans péché, mais qu'il reste malgré tout attaché à Dieu, il veut plaire à Dieu. Et il veut mettre en pratique ce qu'il sait de la volonté de Dieu. Et quand l'épreuve va l'atteindre, Job va se demander, on le voit tout au long du livre, pourquoi une telle épreuve lui est-elle imposée ? Il est dans l'incompréhension, et nous aussi, nous sommes parfois dans l'incompréhension quand le malheur nous atteint. Le cas de Job, il nous révèle quelque chose d'intéressant. Ça nous montre qu'il y a des combats spirituels, des luttes invisibles à nos yeux et qui se déroulent dans le ciel entre les puissances du mal et les puissances célestes et Dieu. Dans l'histoire de Job, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Satan voulait prouver que Job ne servait Dieu que par intérêt. Autrement dit, il voulait prouver que Dieu ne sait pas se faire aimer pour ce qu'il est et qu'il ne bénit les hommes que pour s'en faire aimer en retour. Alors Dieu a permis que Job soit éprouvé pour prouver à Satan que c'est vraiment d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Et je pose ici une question. Est-ce que je sers Dieu d'une manière désintéressée ? Est-ce que si l'épreuve m'atteint, je vais continuer à servir Dieu avec autant de zèle, avec autant de ferveur, avec autant d'amour ? Est-ce que s'il cesse de me bénir, je vais continuer à m'attacher à lui ? Ce sont des questions importantes. Alors l'histoire de Job, elle nous montre que, oui, parfois, nous ne sommes pas responsables des maux que nous vivons et qu'il y a une raison spirituelle et cachée à nos yeux. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, quand vous étiez dans l'épreuve, si les puissances célestes n'étaient pas en train de guetter vos réactions pour voir comment vous alliez réagir ? Si, comme pour Job, Dieu n'avait pas été mis au défi par le malin, Satan lui aurait dit : « Est-ce que tu as vu ce chrétien, cette chrétienne ? Je suis sûr que si tu cesses de le bénir, il va t'abandonner. » Je pense qu'il arrive certainement que nous soyons au centre de ces combats sans le savoir. Et quelle est mon attitude dans ce cas-là ? Est-ce que je vais honorer Dieu en attendant patiemment sa délivrance ? Ou est-ce que je vais me rebeller, l'accuser d'être injuste avec moi ? Job avait compris quelque chose de très important. Il avait compris que Dieu n'est jamais, jamais, jamais injuste. Alors même s'il ne comprend pas ce qui lui arrive, il s'incline devant Dieu. Et on voit au verset 20, « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et il est ajouté, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Il y a un autre cas que j'aimerais voir avec vous et qui nous montre que nous ne sommes pas toujours responsables des épreuves qui nous arrivent. C'est celui de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a été appelé par Dieu pour servir Dieu, pour annoncer l'évangile aux nations. Et c'est ce que Paul s'applique à faire. Il met tout son zèle au service de Dieu. Et il le fait dans des conditions qui ne sont pas vraiment faciles. Physiquement et spirituellement, on voit que l'apôtre Paul est tout le temps dans l'épreuve. et pourtant il continue de servir le Seigneur. On peut lire ensemble dans 2 Corinthiens 4 ce que Paul raconte des épreuves qu'il traverse avec ses compagnons. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Quelques pages plus loin, au chapitre 11, versets 23 à 28, il rappelle ce qu'il a subi au cours de son ministère. Il dit « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Un palmarès impressionnant, hein. Mais c'est au service du Seigneur que toutes ces choses sont arrivées à l'apôtre Paul. On aurait pu penser que Dieu allait les épargner, lui et ses compagnons, lui faciliter la tâche, mais ça n'a pas été le cas. Et parfois l'épreuve arrive justement parce que nous sommes au service du Seigneur. Parce que nous servons un Dieu dans un monde qui est anti-Dieu. Dans un monde qui ne veut pas entendre parler de son Créateur. Et l'apôtre Paul, comme Job, il ne s'est pas rebellé, il ne s'est pas tourné vers Dieu en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais me faciliter la tâche quand même. C'est toi qui m'as appelé pour que je te serve. » Cette attitude-là, ça peut être la nôtre. Lorsque nous estimons que Dieu devrait nous aider parce que nous le servons, parce que nous faisons beaucoup de choses pour lui, parce que nous sommes à son service. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Il n'a pas promis d'éviter les difficultés à ceux qu'il sert. Il n'a pas promis de nous faciliter la tâche si nous faisons nos plus grands efforts. D'ailleurs, aucun père ne ferait cela avec ses enfants, parce que ça les rendrait capricieux et faibles. Moi-même, en tant que père, il m'arrive d'agir ainsi avec ma fille Sarah, qui a 10 mois. Elle commence à marcher à 4 pattes, mais elle n'y arrive pas très bien. Alors des fois, elle s'énerve. Elle commence à crier. Et si je la prends tout de suite dans mes bras, pour la soulager, elle ne va jamais apprendre à tenir fermement sur ses bras. Elle restera faible. Mais si je la laisse pendant un temps faire des efforts et pleurer un petit peu, en restant à côté d'elle, là, elle va apprendre. Et je peux même l'encourager en étant à côté d'elle. En disant, vas-y, allez. Dans la difficulté, on apprend mieux, même si ça doit passer par un moment difficile d'apprentissage. Alors peut-être que vous êtes dans l'un de ces cas ce matin, sans savoir vraiment lequel, mais que vous vivez des choses bien difficiles. Et parfois, on vit des choses si difficiles qu'on a l'impression d'être le seul ou la seule à traverser des moments durs, et qu'on a aussi l'impression que personne ne peut nous comprendre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si l'on est dans l'épreuve? On a vu que les difficultés, elles peuvent être la cause d'une désobéissance ou d'un péché particulier. Mais on a vu aussi que dans bien des cas, nous ne sommes pas responsables des maux que nous vivons. Il est important de se poser la question et de la poser à Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose qui nécessite que tu me mettes dans cette épreuve? Si c'est le cas, Dieu répondra. Il parlera à notre conscience, par sa parole, il nous montrera ce dont nous devons nous détourner. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans le péché. Il est écrit dans 1 Jean 1,7 que si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce qui signifie que si le Seigneur me montre quelque chose qui ne va pas dans ma vie, s'il met en lumière certaines choses et que j'accepte ce qu'il me dit, il restaurera ma communion avec lui et je marcherai dans la lumière. Et pour autant, et c'est très important, nous devons faire attention à ne pas conclure systématiquement que les épreuves sont causées par nos péchés. Tous nos malheurs ne sont pas des punitions divines et Dieu n'est pas en train de nous attendre au coin de la rue avec un bâton pour nous frapper dès que nous commettons un impair. On l'a vu avec Job et Paul. Dans la vie de ces deux hommes, le malheur y venait d'ailleurs. Et d'ailleurs, il venait plutôt de leur fidélité à Dieu plutôt que de leur manquement. Et il nous faut être vigilants à ne pas être comme les amis de Job. Eux, ils avaient une explication toute faite. Si Job était dans la douleur, c'était obligatoirement parce qu'il avait péché et que Dieu devait le châtier. Et si eux, au contraire, étaient dans la prospérité, dans la joie, c'est parce qu'ils n'avaient rien à se reprocher, qu'ils étaient justes devant Dieu. Voilà, c'est avec ces mots-là qu'ils essayaient de consoler pauvre Job. Alors dans ces cas-là, plutôt que de dire de telles choses, il vaut mieux nous taire, plutôt que d'apporter une consolation fâcheuse à quelqu'un qui souffre. Est-ce que vous savez comment Dieu agit avec ceux qui souffrent ? Il est écrit dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 11, que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et même lorsque c'est Dieu qui châtie, nous pouvons avoir la certitude, l'absolue certitude, qu'il n'y prend aucun plaisir. À une époque assez troublée de l'histoire d'Israël, Dieu avait envoyé le prophète Jérémie pour parler à son peuple, pour lui annoncer que le châtiment allait bientôt tomber. Et c'est ce qui est arrivé. Le Seigneur a livré Israël aux mains de ses ennemis. Il y a beaucoup de monde qui a été tué, blessé, humilié, déporté, et il n'est resté de Jérusalem qu'un tas de ruines fumantes. Et après avoir vu tout ça, après avoir été témoin de tous ces événements vraiment durs et insoutenables, Jérémie parcourt la ville qui est dévastée et il a la tête qui est pleine de souvenirs. Il se rappelle la vie qui animait les rues, la joie des hommes et des femmes, et en même temps il repasse dans son cœur les choses horribles qu'il a vues. Ces choses-là, il les avait lui-même annoncées à son peuple. Et le peuple n'avait pas voulu écouter. Et Jérémie, il est rempli de tristesse, de douleur et d'amertume. Et il dit que des torrents d'eau coulent de ses yeux. Mais il dit aussi ces paroles encourageantes. Que le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Le Seigneur ne prend aucun plaisir à châtier ses enfants, même s'ils l'ont mérité. Pourquoi ? Parce que Dieu est bon. Vous savez qu'il est fait référence plus de 100 fois dans la Bible à la bonté de Dieu. Ça a de quoi nous encourager. Au beau milieu de la douleur la plus intense, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut nous rappeler justement que Dieu est bon. Il faut nous rappeler ces vérités au sujet de l'amour de Dieu. Et tout à l'heure, on a lu ce verset dans les Lamentations de Jérémie. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Il faut repasser ces choses dans notre cœur pour garder de l'espérance. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et quelqu'un dira peut-être attendre en silence. C'est facile à dire quand on ne souffre pas. C'est facile à dire quand on ne sait pas encore combien de temps on en a à vivre cette situation difficile. C'est facile à dire quand on ne sait même pas encore si Dieu va me délivrer. sait pas toujours combien de temps va durer l'épreuve. Les moments de douleur, ils nous semblent toujours trop longs et on aimerait être délivré tout de suite, avant même que l'épreuve ait commencé. Mais on peut attendre en silence, parce qu'on a l'assurance de l'amour de Dieu dans nos vies. Je peux être certain que parce qu'il m'aime, le Seigneur va prendre soin de moi et me fera du bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On le répète souvent, ce verset. Parce qu'il nous aide à tenir bon dans l'épreuve. Parce que ça veut dire que ce que je vis de difficile va servir à mon bien. Ça veut dire aussi que, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, aussi inextricable et douloureuse qu'elle puisse être, même s'il n'y a aucune solution humaine à mon problème, rien que je puisse imaginer qui permettrait d'en sortir, Dieu a le pouvoir de faire sortir du bien de la situation dans laquelle je me trouve. Prendre l'exemple de Joseph. Joseph, il a été vendu comme esclave, emprisonné. Qui aurait imaginé qu'un jour, il devienne gouverneur de toute l'Égypte et qu'il puisse en plus faire sortir sa famille de l'épreuve et de la famine? Dieu est suffisamment puissant pour nous faire sortir des plus sombres vallées où nous sommes en train de marcher. Et il est suffisamment puissant pour en plus bénir ceux qui nous entourent. Et même si nous nous sommes mis nous-mêmes dans le pétrin, par notre propre faute, par notre propre désobéissance, même là, il nous reste encore de l'espoir. On peut lire ensemble dans le psaume 107 à partir du verset 17. Psaume 107, verset 17 et suivant. Nous lisons que les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. C'est la fin, c'est le désespoir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec joie. Même si je fais partie de ces insensés coupables, même si je me suis mis moi-même dans le pétrin, j'ai toujours de l'espoir, je peux toujours venir à Dieu, lui dire « Au secours, viens à mon aide. » Je me souviens qu'à période de ma vie, je me suis mis moi-même dans une situation bien délicate. J'étais terriblement mal et je voyais vraiment pas comment m'en sortir. Et j'ai imploré le Seigneur de me délivrer. Et il m'a rappelé des paroles qui m'ont fait énormément de bien. On dit, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, s'égarer elle-même la brebis, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Nous avons un bon berger, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus va chercher ses brebis. Il prend soin d'elles. Il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Est-ce qu'il y a dans votre entourage quelqu'un qui donnerait sa vie pour vous? Dieu l'a déjà fait, par amour pour vous, par amour pour nous. J'aime beaucoup ce passage de Romains 5, verset 8, et je le cite souvent pour moi-même, pour ne pas l'oublier, pour me le remémorer sans cesse. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans ce verset-là, il y a une clé qui peut nous permettre de toujours vivre l'épreuve de manière différente et de remonter la pente quand plus rien ne va. Dieu a prouvé son amour, il m'aime. Je peux en être sûr, c'est écrit dans sa parole, il m'aime. Et si Dieu m'aime, il ne me laissera pas traverser seul la souffrance, et même il m'en délivrera. Dans le psaume 23, il est écrit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu est avec nous. Et je terminerai sur cette réflexion, sur le fait que quelles que soient les circonstances de ma vie, bonnes ou mauvaises, je peux être assuré que Dieu m'aime et que rien ne pourra ôter cet amour que Dieu a pour moi. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ? Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.